Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence avec un morceau de No Means No, issu de l'album The Worldwood of the World. Un album qui est de 96, je crois, 97 dans ces eaux-là. J'ai oublié, et c'était le morceau He Learned How to Bleed, donc il a appris à saigner. Voilà, c'est parce que The Worldwood of the World, c'est un petit titre un petit peu heideggerien, parce que nous aussi, on aime bien plaisanter, c'est la mondéité du monde. Donc, histoire de rire, puisqu'on a encore trouvé des petits documents qui montraient que Heidegger était un sale nazi de merde. Excusez-moi, c'est une obsession. Et ce soir, rien à voir avec tout ça. Jean-Mathias donc, va nous parler d'un ouvrage publié au Seuil récemment qui s'intitule « Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation », un ouvrage de Dominique Rousseau, qui est professeur de droit constitutionnel à l'université Paris-1-Panthéon-Sorbonne, oulala, un pont, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature de 2002 à 2006, oulala, ouf, co-directeur de l'école de droit de la Sorbonne en 2013. Donc bon, c'est pas un révolutionnaire, malgré tout, bon, il propose de radicaliser la démocratie. Alors c'est assez intéressant, parce que c'est une période où il semble que l'oligarchie est de plus en plus nette, qu'il y a aussi de plus en plus de livres qui nous parlent de radicaliser une démocratie. Alors, est-ce que la démocratie existe déjà vraiment? On pourrait se poser la question. Avant de la radicaliser, il faudrait peut-être l'instituer. Mais est-ce que la radicaliser, c'est pas déjà l'instituer? Je sais pas. Souvenons-nous que pendant longtemps, le mot démocratie, en fait, était plus ou moins l'équivalent du mot anarchie. Au moins jusqu'au 19e siècle. On avait parlé de ça avec un bouquin de Graeber. Donc, ça fait quelques questions. Alors, Jean-Mathias, c'est toi qui vas nous présenter le bouquin ce soir.
Ce livre-là, alors je le conseille d'abord, là. Donc, livre de Dominique Rousseau, même si c'est pas révolutionnaire, même si c'est pas. un anarchiste le couteau entre les dents. Et je pense pas que ce soit le cas, effectivement. Il est ni révolutionnaire ni anarchiste le couteau entre les dents. En fait, c'est plutôt, autant que je puisse le savoir, c'est plutôt un sympathisant France Insoumise, tendance socialisme démocratique, on va dire. Voilà. Donc, de fait, il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui veut supprimer l'État ni, ni instaurer une. Alors, le capital, ça, c'est plus compliqué. Le capital, c'est plus compliqué parce qu'il est socialiste quand même. Ouais. Quand je dis socialiste démocratique, il est vraiment les deux. Voilà, je pense. Voilà. Et, mais ce n'est pas quelqu'un qui est pour l'abolition de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui est pour l'abolition, qui est pour une démocratie directe généralisée. Donc, voilà, c'est pour situer le bonhomme. Après, moi, ça m'a intéressé. Alors, pour deux raisons, voilà, le thème de la démocratie, c'est un sujet qui nous intéresse depuis longtemps, sur lequel on a déjà pas mal causé. Radicaliser la démocratie, alors le titre est effectivement assez
alors, les titres sont choisis par les éditeurs.
Oui, mais de fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils choisissent tous le même titre en ce moment-là.
Oui.
C'est vraiment...
Bah, voilà. Donc, parce qu'il y a quelques temps, tu avais chroniqué un bouquin qui s'intitulait « Pour une radicalisation de la démocratie » de Chantal Mouffe et de Herreron.
Voilà, Inigo Herreron, effectivement, « Construire un peuple ». Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour le coup, là, je vais essayer de montrer que ça développe des idées et puis des approches qui sont très différentes de celles qu'on avait, discuté justement dans cette émission là sur Podemos en fait, hein, et sur le populisme de gauche en fait, qui est une idée très à la mode et très discutée également à la France insoumise et puis au-delà hein, puisque c'est un peu partout en Europe.
C'est-à-dire que dans un climat de libéralisme et pour le coup radicalisé depuis bien longtemps, enfin le capitalisme libéralisé depuis bien longtemps,
on sent qu'il y a un problème démocratique et du coup on en appelle au peuple et du coup une des voies pour le faire, c'est effectivement d'aller construire un peuple de gauche, un peuple évidemment insoumis, etc. Bon, alors on a dit ce qu'on en pensait ça la dernière fois.
Marine Le Pen,
qui voterait pas Marine Le Pen et qui c'est qui ceci. Alors c'est pas exactement la voie que lui choisit. Mais c'est aussi ça qui m'intéresse dans le bouquin, c'est que c'est un juriste, le gars, c'est son boulot, mais il a des compétences là-dessus, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un juriste assez informé sur l'histoire du droit, et sur... qui n'est pas complètement une bille en politique non plus, et en philosophie du droit, et particulièrement sur l'histoire du droit français. Alors, pour le dire très rapidement, je dirais que ce qui m'intéressait, moi, dans ce bouquin-là, alors c'est d'une part, il y a tout un tas de mesures institutionnelles alors sur lesquelles je vais revenir, qui sont un peu programme, comment réformer vers la 6ème République, quoi. Hein, donc ça, c'est le côté très France Insoumise du truc, mais pourquoi pas, après tout, je veux dire, c'est aussi informatif. Ce qui m'intéresse dans son affaire, c'est qu'effectivement, il s'appuie sur une histoire assez précise du droit français, et notamment du droit issu de la Révolution française, pour... essayer de mettre en perspective ce qu'il appelle, lui, une sorte de libéralisme jacobin. Ce qui est donc une spécificité de l'histoire française, qui, en fait, gouverne la plupart des conceptions politiques et des gouvernements depuis plus de deux siècles, d'après lui, du point de vue du droit, encore une fois, de la conception du droit, et qui met face à face en permanence un État... une souveraineté d'État qui est l'expression de la volonté générale, de la nation une et indivisible, jacobinisme, et face à face avec l'individu, sans intermédiaire entre les deux, et sans aucune réflexion finalement juridique justement, sur ce que c'est que le peuple, en réalité, sur ce que c'est que le peuple, quand on l'approche d'un point de vue qui est social, et qui insiste à la fois sur la diversité propre aux différentes catégories sociales, aux différentes classes sociales, et la diversité des individus citoyens eux-mêmes. Et sa tentative, je le dis de manière très générale, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qui m'a intéressé moi, et ce que je trouve une piste très stimulante, c'est... est-ce qu'on peut essayer de penser des institutions ou est-ce qu'on peut penser ce que c'est qu'une démocratie en sortant de cette espèce de face-à-face entre l'État et l'individu? Pourquoi il parle de libéralisme jacobin? Parce que d'après lui, en fait, on a les deux pôles en fait, du système. C'est-à-dire que les libéraux eux-mêmes au XIXe siècle, les libéraux politiques, j'entends, hein, puis effectivement après les libéraux français, donc Constant, puis Guizot, etc. au XIXe siècle, puis les libéraux encore aujourd'hui, insistent au fond sur l'initiative individuelle, la liberté individuelle, le droit de propriété individuelle, etc. Mais sans remettre en cause l'existence d'un État dont la mission... est conçu par les libéraux comme effectivement la garantie de la propriété individuelle. Mais les deux sont bien solidaires, c'est-à-dire qu'il y a l'État et l'individu. Et il s'agit de défendre l'individu contre les abus de l'État, mais en maintenant ce que l'État peut faire au service des individus. Le jacobinisme fait l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il pense la souveraineté de l'État, la souveraineté de la nation, une et indivisible, du peuple souverain, qui doit primer sur les intérêts individuels. Mais en fait, c'est pas plus satisfaisant. C'est d'accord. Pas plus satisfaisant
d'après
Rousseau.
C'est une espèce Rousseau. De mélange monstrueux entre Jean-Jacques Rousseau et la loi Le Chapelier.
Ah bah c'est la même démarche
d'après lui. Rousseau, je rappelle, pour le contrat social, la volonté générale, qui ne peut jamais errer, etc., etc., qui exprime comment dire l'intérêt de tous, et puis la loi Le Chapelier qui interdit aux ouvriers de se syndiquer,
qui casse les corporations
justement au nom du droit des individus, du droit de l'État, et du fait qu'il ne doit y avoir aucun intermédiaire.
Entre l'individu citoyen et la souveraineté nationale.
La souveraineté nationale, voilà.
Mais par contre, une fois que la souveraineté nationale est fixée par l'expression de la volonté générale, l'individu s'écrase sans aucun recours, a priori. Hein. Et donc, ce qu'il pense, lui, c'est qu'il y a une difficulté particulière en France, peut-être, pas seulement en France, mais peut-être particulièrement en France, à réfléchir à ce qui serait effectivement la diversité sociale, la diversité des intérêts, la diversité des corps sociaux, des corps intermédiaires notamment, et la manière de trouver des traductions institutionnelles et juridiques pour que puisse s'exprimer d'une certaine manière la voix du social, en quelque sorte. Hein. La voix du social, donc c'est une approche, effectivement, je dirais, sociale du peuple. Le peuple, c'est ça. Et alors, ce qu'il gêne je généralise un peu plus qu'il ne le fait, cette affaire-là, mais c'est un fil, effectivement, qui est un fil rouge chez lui, en fait, dans les propositions qu'il fait. Et en fait, ce qui lui va pas dans cette tradition française-là, c'est que finalement, quand on parle du peuple et quand on fait des appels au peuple, d'une certaine manière, en fait, on rate toujours justement sa spécificité sociale, d'après lui. Le peuple, c'est toujours le peuple tel qu'il est défini par rapport à l'État. Et tel qu'il est défini même par l'État. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des électeurs, c'est l'ensemble des citoyens électeurs. Voilà.
Des citoyens actifs.
Des citoyens, ouais, enfin, actifs tous les cinq ans.
Je pensais à la division entre citoyens actifs et citoyens passifs pendant la Révolution française.
Alors, il y a l'idée.
Où les actifs, c'était ceux qui pouvaient, ceux qui pouvaient payer et voter, en fait. Et donc, à partir de là, l'État ne reconnaît comme peuple que ceux qui sont capables de contribuer à sa formation, qu'elle soit en termes financiers ou en termes électoraux, peut-être. Ouais.
Mais son idée, c'est quoi là, quand on parle du peuple, on va rabattre ça, voilà, soit sur une multitude d'individus qui sont consultés tous les 5 ans, mais qui après, surtout, sont tenus de s'écraser, soit sur une espèce de vague société civile, mais finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, la société civile, c'est tout ce qui n'est pas l'État et tout ce qui va obéir aux règlements pensés par l'État. Et en fait, on est incapable, d'avoir une approche, comment dire, juridique de ce que c'est, de ce que c'est que la souveraineté du peuple, pour le coup, qui serait pas confisquée par l'État. Et c'est en ça que ça m'intéresse, parce que pour le coup, c'est pas un libertaire, c'est pas un anarchiste, ça c'est clair, mais c'est un démocrate. C'est-à-dire qu'il cherche effectivement à essayer de comprendre comment on pourrait d'abord penser et ensuite trouver des traductions institutionnelles à ça, à ce pouvoir du peuple, et un peuple qui serait en quelque sorte pensé en tant que tel, c'est-à-dire dans sa diversité, à la fois en termes de classe sociale, à la fois en termes d'individualité, et comment on pourrait éventuellement penser des institutions qui respectent ça. Et en fait, faute de ça, effectivement, on tombe toujours dans cette espèce de face-à-face individu-État du point de vue des partis de la démocratie représentative en France, ou alors, et c'est là qu'on retrouve la thématique populiste, dans laquelle il ne se reconnaît pas du tout, ou alors on va en appeler à une espèce de conception un peu mythifiée de la démocratie directe, qui consiste à balancer le principe de la démocratie représentative lui-même, ce qui n'est pas sa position. Alors c'est en ça qu'il n'est pas anard non plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour la suppression de l'État, il n'est même pas pour la suppression de la démocratie représentative.
D'accord. Les trucs comme le mandat impératif, ça lui semble, il en parle ou pas du tout?
Oui, bien sûr qu'il en parle. Alors il en parle d'ailleurs avec un éclairage historique qui est intéressant et que j'ignorais, en montrant qu'en fait, que c'est une manière un peu à rebours de prendre ça. Il en parle quand il fait l'histoire de la démocratie représentative, enfin l'histoire du système représentatif français, pour être exact. Et comment il montre que ce système représentatif, en fait, il repose sur une idée de la représentation du peuple, justement, comme une espèce de fusion un peu magique dans laquelle les individus donc perdent leur particularité et vont se retrouver fusionnés dans leurs représentants. Voilà, comme si effectivement il y avait une nation qui en quelque sorte dont la représentation, dont les élus effectivement étaient porteuses, voilà, du pouvoir de manière un petit peu magique, comme si ces représentants-là, du coup, et il dit que ça, effectivement, cette idée de représentation comme fusion, hein, qu'il conteste lui, ben elle apparaît avec la révolution de 89 et elle apparaît à un moment bien précis. C'est le moment où les députés français vont se libérer du mandat des cahiers de doléances. Et vont se libérer du mandat des cahiers de doléances et vont dire, ben, les cahiers de doléances, c'est bien gentil, mais en fait, nous, on représente le peuple. Le peuple, c'est nous. La nation, c'est nous. La nation, c'est nous. Et vont opposer cette souveraineté-là au roi. Et il dit, en fait, la Révolution française se déclenche comme ça. Elle se déclenche par la mise à l'écart, puis l'interdiction du mandat impératif.
D'accord. Ah, c'est intéressant.
C'est intéressant comme approche, parce que je trouve le mandat impératif est souvent associé justement à l'idéal révolutionnaire. C'est-à-dire, on contrôle nos élus, on est en direct, en prise avec les choses. Mais il dit, alors, peut-être qu'il y a des révolutions, ou des pratiques révolutionnaires qui ont ça en vue. Il n'empêche que, historiquement, en France, la révolution, elle commence quand, effectivement, on abandonne le mandat impératif, c'est-à-dire quand les représentants du peuple se disent, mais les cahiers de doléances, c'est pas tout. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est changer la constitution et changer de régime. Et le roi, il rappelle qu'il y a des déclarations du roi qui dit, mais attendez, vous n'avez pas ce mandat-là. Votre mandat, c'est les cahiers de doléances. Vous êtes représentante de ce que vos électeurs ont écrit. Mandat impératif. Hein. Et c'est là où, effectivement, la représentation nationale va dire, mais non, nous, on représente la nation, hein, une et indivisible, pour opposer, justement, leur pouvoir et leur mandat représentatif à la souveraineté du roi. D'accord. Voilà. Et on oppose. Et pour lui, c'est un moment qui est très important dans l'histoire du droit, notamment en France. Oui. Parce que c'est là qu'on constitue le peuple comme un et indivisible. Mais ce peuple, il est constitué d'en haut. Il est constitué par, effectivement, des représentants qui s'autoproclament dépositaires.
C'est quand les États généraux se transforment en Assemblée nationale.
Exactement. Et donc, effectivement.
En plus, ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, ils font s'autoproclamer Assemblée nationale. Nous sortirons d'ici que par la force des baïonnettes.
Exactement. Et c'est là que la révolution commence. C'est là que la révolution commence. C'est-à-dire quand le peuple, effectivement, est transformé en nation par ses représentants. Donc il y a une conception de la représentation derrière, c'est ça ce qu'il appelle la représentation fusion, hein, qui va du coup gommer, bien évidemment, mais par une espèce d'effet un peu magique, hein, qui va gommer les diversités d'intérêts, les conflits d'intérêts, les classes sociales, bien évidemment, et qui du coup, évidemment, de manière cohérente, ne veut voir que des individus, et des individus, et veut les voir, mais pas très souvent.
Le moins possible.
Le moins possible, donc déjà d'abord, ça va être ceux qui peuvent payer, ensuite ça va être ceux qui sont payés, et qui sont des hommes, ensuite éventuellement on va élargir aux hommes qui ne peuvent pas payer.
Ce qui est compliqué historiquement, c'est que le peuple n'arrête pas de surgir dans la révolution.
Bien entendu, mais il dit parce qu'effectivement, à partir de ce principe-là, évidemment, du coup, le système représentatif, il dit en fait, met la démocratie en état de manque. J'aime bien la formule, parce qu'évidemment, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura forcément de la division, du conflit d'intérêts, etc., qui n'est pas retransmis dans l'espace de représentation des députés élus tous les 5 ans. Et donc, évidemment, on pense effectivement la démocratie, voilà, comme une espèce en apnée, quoi. Et donc, qui a besoin effectivement de ressurgir, voilà, à intervalles réguliers, de remettre en cause ses représentants. Hein. Et donc d'en appeler à une espèce, à une démocratie directe, le Périclès, les conseils ouvriers et paysans, etc. Bon, ce qui est une réalité, évidemment, historique aussi. Hein. Alors là, il va vite là-dessus. Alors, lui, ce qui lui va pas dans cette affaire-là, c'est qu'il pense que il pense que le système représentatif a jamais été complètement satisfaisant, mais il pense que là, on est au bout, et que du fait, ça pète de partout. Ce qui est une manière qui est pas idiote, je trouve, de penser effectivement les populismes en général, et les thématiques populistes en tout cas, parce qu'effectivement, c'est d'abord une crise. Du caractère représentatif de la classe politique, en fait, cette émergence-là, si pour le dire de manière assez simplement.
Entre autres, moi j'y pensais à partir d'un bouquin des années 40 sur la loi des reins de l'oligarchie.
Ah bah c'est le Robert Michels, ça monte à ça. Là on est dans un moment comme ça.
On est dans un moment très clair où l'oligarchie finit par dire en fait les gars c'est pas vous qui avez le pouvoir, c'est nous. De façon très claire. Mais bon, ensuite, c'est clair que ce genre de moment où l'oligarchie montre les muscles, c'est aussi souvent des moments où tu as des résurgences, et des oppositions.
Bien sûr.
Qui vont souvent dire nous ne voulons pas de l'oligarchie, nous voulons de la démocratie.
Mais alors, du coup, là où sa position est, pas populiste pour le coup, c'est que lui, effectivement, n'est pas du tout emballé par la position qui consiste à dire, en fait, ce qui ne va pas, c'est le principe de la démocratie représentative. Il faut en finir avec ça pour installer une vraie et la seule vraie et unique démocratie, qui est la démocratie directe. Alors, il y a deux arguments qui, pour lui, qu'il faut entendre, je pense, y compris en tant que libertaire, parce que nous, on est plutôt attachés à la démocratie directe. Hein, je veux dire, c'est quand même ça qu'on assume. Mais les deux arguments qu'il avance, lui, sont pas les critiques classiques un peu faciles du genre, ah ben non, ça marche sur des petits groupes, ou ça marche... Ouais,
ça marche pas avant, très longtemps.
Ça marche pas très longtemps, etc.
Quand les gens sont motivés, tout ça.
Ce qui est pas l'argument, d'après lui, en fait, c'est les deux arguments qu'il avance, lui, c'est qu'en fait, lui, il est attaché au principe de représentation, de démocratie représentative, ce qu'il appelle le principe représentatif, pour le coup. Simplement, évidemment, le fait de réduire ça à une élection ou à l'élection de représentants, c'est ça qui colle pas pour lui. C'est-à-dire, effectivement, le fait de supprimer à intervalles réguliers la diversité, les antagonismes de classe et d'individus et d'intérêts et de détermination sociale, et de penser que c'est ça, effectivement, le moment politique constituant, ça colle pas. Il veut garder le principe de représentation parce que, d'après lui, il y a besoin d'un espace où, justement, les individus ne soient pas uniquement représentatifs de leur intérêt particulier. Il garde ça. Il faut une généralité. Et il faut qu'il y ait effectivement une concurrence, justement, pour énoncer des lois générales ou des règles communes, et qu'il ne soit pas simplement l'expression des rapports de force entre catégories ou entre minorités ou même majorités sociales. Parce qu'à ce moment-là, on n'est que dans du rapport de force, en fait. Voilà, du rapport de force ou des alliances qui se font sur la base des intérêts des uns des autres. C'est en ça qu'il n'est pas marxiste non plus. Hein, et en ça qu'il est pas mal. En tout cas, il n'a pas une approche marxiste du droit, ça c'est clair. Et le deuxième point, c'est qu'il pense que s'il n'y a pas d'espace de représentation, et s'il n'y a pas de représentants, en fait, il ne peut pas y avoir non plus de contrôle démocratique de ce qui est fait. C'est-à-dire que par définition, dans une démocratie directe, le peuple ne peut pas se contrôler lui-même. Et n'a pas de compte à se rendre. C'est le principe d'un référendum, d'une décision référendaire ou plébiscitaire. C'est à partir du moment où t'as une majorité référendaire qui se dégage, une majorité plébiscitaire. C'est vrai, y compris dans la Ve République aujourd'hui. Hein. C'est que t'as rien qui, en principe, peut remettre en cause, si tu veux, la légitimité d'une décision prise dans un système de démocratie directe. Si on prend le modèle effectivement du référendum ou du plébiscite, hein. Mais c'est pas complètement faux, hein, comme objection, hein.
En gros, il voudrait qu'il y ait un représentant à qui on puisse mettre des garde-fous juridiques.
Ouais.
Le souci dans ces cas-là, il me semble, c'est souvent un problème qu'on trouve avec les juristes, c'est que il arrive souvent des moments où en fait les rapports de force, dans l'oligarchie font qu'on s'assoit sur le droit purement et simplement.
Oui, bien sûr.
Ce qui fait qu'on peut jamais se garantir d'un abus de pouvoir par le simple droit. Alors je dis pas qu'il a tort forcément, mais enfin je sais pas. Moi je vois tout de suite un souci qui peut se poser.
Oui, mais est-ce que c'est lié à la question du principe représentatif? Je crois pas. Enfin, c'est un problème.
Pas nécessairement.
Le fait que tu aies des problèmes, que tu aies un risque, si tu veux, de rapport de force...
Incontrôlé par le droit, parce que de toute façon, il sera incontrôlé par le droit, à partir du moment où la force domine.
Tout à fait. Non, mais d'accord avec cet argument-là. C'est-à-dire qu'il a un côté très juriste, hein, si tu veux. C'est vrai qu'effectivement, mais en même temps, c'est son taf et c'est le type d'approche que lui privilégie. Alors c'est vrai que si tu veux, mais ça serait un autre bouquin
ou un autre
truc si tu veux. Après,
dans le cadre d'une situation entre guillemets normale, il est clair que le droit peut avoir un usage très 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 très, très fécond, je crois. Mais
c'est son idée. C'est surtout ce que lui dit, et je trouve que c'est un argument qu'il faut aussi entendre. C'est qu'en fait, je ne sais plus comment il formule ça à un moment, mais je trouve que la formule est assez juste. Il dit qu'en fait, toutes les tentatives qui ont été faites pour penser le peuple, hein, d'un point de vue démocratique, de manière non juridique, n'ont jamais rien donné. Et ça, je trouve que c'est assez, c'est plutôt à méditer. C'est-à-dire, quand tu définis le peuple sans te poser la question finalement de ce que c'est que son statut juridique dans un régime démocratique, eh ben, tu tombes sur quoi? Donc tu vas avoir la multitude, tu vas avoir la classe, tu vas avoir les masses, tu vas avoir le prolétariat. Mais concrètement, et en termes de traduction, si tu veux, institutionnelle et de projet politique, ça donne quoi? Ben, historiquement, pour l'instant, la question, elle reste posée. Hein. Elle reste posée, et je pense que c'est...
Très souvent, dans ces cas-là, le peuple, c'est juste un orateur. Qui parle du peuple et qui dit « je parle pour le peuple ».
Oui, mais parce que si tu veux... Après, il y a eu des formes, hein, mais je veux dire, t'as les formes conseillistes, t'as les formes fédératives, tu vois, type Révolution espagnole, tu vois, en 33-34, où là, t'as une fédération type anarcho-syndicaliste. Donc, il y a des réponses à ça. Mais à chaque fois, le problème de la représentation, il va se poser. Hein.
Ouais.
Il se pose, hein. Se pose aussi bien pour effectivement voilà la République soviétique que pour effectivement les fédérations syndicales. Donc si tu veux, alors c'est bien des traductions institutionnelles affaire-là. Mais si tu veux, qui sont pas forcément assumées en tant que telles. Et c'est vrai, c'est vrai dans le marxisme bolchevique, et c'est vrai aussi dans la tradition anarch, où il y a un côté effectivement, y compris chez Proudhon, si tu veux, où t'as un rejet effectivement de l'État, pas de la légalité, mais t'as un rejet effectivement du principe représentatif qui est très fort, et qui est pas forcément toujours convaincant. Parce que on a des anarches qui du coup deviennent ministres en Espagne, qui organisent la production, la mobilisation et dirigent des états-majors, mais sans qu'il y ait de cadre juridique, si tu veux, de contrôle qui a été pensé avec la chose. Donc c'est voilà. Bon, après, je veux dire, ça veut pas dire qu'il y a forcément les réponses à tout ça dans le bouquin de Rousseau, mais je trouve que c'est une manière de poser le problème de la démocratie qui est intéressante. Hein, le fait, effectivement, comment constituer le peuple, voilà, comment lui donner, penser son statut juridique et des traductions institutionnelles, voilà, sans que ce soit fait par l'État. Voilà. Et dans une perspective, effectivement, qui respecte la diversité et la diversité et l'hétérogénéité aussi, hein, des intérêts et des antagonismes au sein de la société, d'une certaine manière.
Ouais. On va faire une pause musicale. Je pense que José va encore nous passer du No Means No. Ce soir, il a décidé de me faire plaisir. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir qui se poursuit et vous venez d'écouter un morceau de No Means No, un morceau tiré de l'album 0 plus 2 égale 1. Un morceau qui s'intitule The Valley of the Blind. Voilà, excellent album, excellent morceau, excellent groupe, le meilleur groupe du monde, No Means No. Voilà, je vous le recommande. Ils sont séparés pour de bon il y a quelques temps.
Avec les frères Jacques, quand même.
Comment
avec les frères Jacques.
Ta gueule. Et.
Et ce soir, donc, Jean-Mathias nous présente donc un bouquin de Demis Rousseau. Non, 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 ça c'était en réponse au frère Jacques. Il fallait pas la faire. Un bouquin donc de Dominique Rousseau, Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation, édité chez Le Seuil. Et donc Dominique Rousseau, et pas Demis Rousseau, en 2015. Et donc Demis Rousseau, pardon, Dominique Rousseau, comment dire, propose de quelque sorte d'essayer de donner une définition du peuple dans sa diversité, dans son hétérogénéité, à partir de catégories juridiques, histoire que je crois qu'on ne parle plus d'un peuple fictif ou qu'on essaie de, comment dire, de donner un statut politique contestable d'ailleurs, aussi, c'est aussi peut-être un début, à nos représentants. Ce serait ça peut-être l'idée ?
Oui, bah alors peut-être donc j'ai donné une idée effectivement du cadre un peu général dans lequel il s'inscrit lui, et qui est donc voilà, je pourrais qualifier oui de socialisme démocratique, on va dire radical si on veut, mais enfin bon, c'est tellement usé que, mais de fait il est radical au sens où je trouve que ça tranche pas mal avec l'histoire politique française, l'histoire du droit en tout cas dans le domaine du droit. Alors peut-être une fois précisé ça, bah, il y a la présentation qu'il donne du début de son bouquin sur les principes en fait sur lesquels il entend voilà s'appuyer. Alors principe de ce qu'il appelle, alors son programme, où je l'ai pas dit parce que la formule est plutôt pas mal, en fait son objectif, son projet, c'est de préciser les principes et les institutions qui seraient ceux d'une démocratie continue. C'est ça qu'il préfère en fait utiliser. Il dit qu'effectivement, alors plutôt que démocratie, bon, c'est pas la démocratie participative, démocratie d'opinion, démocratie du public, il y a plein de formules là-dessus. Lui préfère cette affaire-là, c'est assez habile de sa part, je trouve, c'est-à-dire c'est effectivement trouver des institutions et des lieux et des formes juridiques qui permettent effectivement que le peuple s'exprime. Que le peuple s'exprime et qu'en fait qui formule et qui se donne ses lois, que ce soit pas celle de ses représentants, que ce soit pas celle voilà d'une classe politique. Son affaire est assez convaincante par rapport aux dérives oligarchiques du système représentatif. C'est pas une approche en termes de classe, mais par contre en termes effectivement de dérives oligarchiques, c'est une réponse que je trouve assez intéressante. Alors, j'avais promis, donc je lis sur les principes. Donc première partie, les principes de la démocratie continue. Donc on est au début du livre, hein, page 20. La démocratie continue n'est pas un aménagement de la démocratie représentative. Elle opère une rupture qui se manifeste dans ses trois principes de légitimité. Alors que le principe politique de la démocratie représentative, c'est la représentation fusion, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, la manière dont le peuple va se fusionner dans ses représentants. Donc alors que le principe politique de la démocratie représentative, c'est la représentation fusion, celui de la démocratie continue, c'est la représentation comme écart, nous dit-il. Alors, je vais en dire un mot après. Deuxième point de rupture, alors que le principe juridique de la démocratie représentative, c'est le peuple comme nation, celui de la démocratie, c'est la double identité du peuple, à la fois corps politique et ensemble de citoyens concrets. Dernier point, troisième point de rupture, alors que le principe sociologique de la démocratie représentative, c'est l'État-nation, celui de la démocratie continue, c'est la société des individus. Alors ces trois approches qu'il essaye effectivement de mener en parallèle, approche politique, juridique et sociologique. Alors, deux mots peut-être sur ce qu'il appelle la représentation écart, hein, qu'il souhaite opposer justement à la représentation fusion. C'est assez habile, ça fait un peu jargon comme ça, mais en fait, il ne faut pas croire que c'est très clair. Hein. Il y a une manière très, 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 très claire d'écrire ça. Alors, donc sur le principe, sur la représentation comme écart, qu'il souhaite privilégier effectivement sa démocratie continue, il écrit les choses de manière suivante. Au moment où, de partout, s'élèvent des critiques radicales de la représentation, on est dans les thématiques populistes, il peut être surprenant de vouloir en faire toujours le principe d'une refondation de la démocratie. C'est le point de vue que lui va défendre. Il en est pourtant de la représentation comme de la raison. Il en existe plusieurs figures, et chacune ouvre sur des logiques différentes. Ainsi, la représentation peut se comprendre comme la présence unifiée de deux corps, 1 plus 1 égale 1, c'est le principe de la représentation comme fusion, justement, ou bien la mise en visibilité de deux corps, 1 plus 1 égale 2. Chaque figure produit une forme démocratique différente, la représentation fusion est au principe de la démocratie représentative, la représentation écart est au principe de la démocratie continue. La première s'essouffle, la seconde monte en puissance, nous dit-il. Alors, ensuite, ce que vous avez compris, que du coup, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir à tout ce qui pourrait éventuellement permettre à la diversité du corps social, on va dire ça comme ça, du corps social, de pouvoir s'exprimer dans des institutions. Alors, parmi les distinctions importantes qu'il fait, donc j'ai dit deux mots là sur sa critique de la démocratie directe, hein, donc je reviens pas là-dessus. Peut-être sur la suite, sur ce qui concerne la dimension constitutionnelle, juridique, hein, ce qu'il appelle, voilà. En fait, c'est la manière dont ce qui l'intéresse aussi, et là-dessus, il a des choses intéressantes aussi, c'est la manière dont, effectivement, on peut définir cette entité peuple-là, ce démos, hein, qui est censé justement s'autogouverner en démocratie. Alors, comment faire pour pas laisser la définition entre les mains de l'État ? Alors, il présente les choses un peu comme ça aussi, là, dans le deuxième chapitre du bouquin. Il nous explique « Si chaque système politique a le peuple pour référent, tous ne retiennent pas la même signification. Le système représentatif se fonde sur le peuple comme un corps politique. » je sais plus où j'en étais. Démocratie.
Il y a Oli d'entre chez nous qui apporte des munitions, donc ouais. ça va, c'est compliqué.
On le remercie, on l'embrasse, on le serre dans nos bras, on le poutoue, on lui fait un câline, enfin voilà. Je reprends, hein, parce que voilà. Alors, si chaque système politique a le peuple pour référent, tous ne retiennent pas la même signification. Le système représentatif se fonde sur le peuple comme corps politique, donc là on est dans le système issu de la Révolution française. La démocratie directe sur le peuple comme ensemble des membres du corps social. Le projet de la démocratie continue se construit en prenant en charge ces deux peuples, ces deux significations, et en les articulant l'une à l'autre par un médium, le droit. Voilà. Alors c'est ça le programme. Alors c'est formé de manière assez générale, mais je pense que ça illustre assez bien l'idée quand même. C'est-à-dire que il s'agit de sortir de l'idée que voilà, on a un peuple complètement aspiré par sa représentation et qui doit juste fermer sa gueule et voter tous les 5 ans dans le meilleur des cas. Et en même temps, sortir effectivement aussi de l'idée qu'on pourrait installer une démocratie directe permanente qui, elle, serait la seule véritable démocratie, et que tant qu'on ne l'a pas, bah, finalement on ne l'a pas, on ne peut pas parler de démocratie. L'idée, c'est d'essayer voilà, de trouver l'articulation institutionnelle et juridique qui permet effectivement à ce que le peuple réel gouverne réellement, d'une certaine manière. Alors c'est un côté, tout de suite on va dire oui, ça fait un peu centriste, ça fait un peu synthèse molle, etc. Peut-être, mais je trouve que le projet est pas si idiot.
Limite, il part de quoi ? Il part du constat qu'une démocratie purement directe, c'est une fiction qui nous...
C'est qu'on pas aura une des, fiction, c'est non, pas... C'est,
qu'on
c'est...
aura des représentants et qu'il faudrait essayer de faire au mieux pour que ces représentants... Soit représentatif, c'est quelque chose comme ça.
Oui, cet endroit-là, sachant que si tu veux, c'est pas que c'est une fiction, la démocratie directe d'après lui, c'est que c'est une fiction, et c'est surtout en partie illusoire, c'est-à-dire qu'effectivement ça n'est pas la seule vraie et unique démocratie. Pas parce qu'il y en a, déjà parce qu'il y a d'autres systèmes démocratiques pensables et possibles, mais c'est surtout parce que celle-là n'est pas forcément le paradis démocratique tel qu'on le considère ses partisans. C'est plutôt ça. Donc l'idée, c'est effectivement de garder, si tu veux, ce qu'il y a de concret dans le peuple de la démocratie directe, c'est-à-dire effectivement l'ensemble des individus en personne, je dirais. C'est les individus en personne. De garder ce qu'il y a de concret là-dedans, et de garder voilà, une capacité voilà, de décision des lois et d'exécution des lois qui est celle, pour l'instant, monopolisée par le système représentatif fusionnel, comme il dit. Bon, mais c'est un peu général tout ce que je dis là. En fait, son propos est beaucoup plus.
Là, c'est l'introduction, concret, les introductions.
Hein. Oui, on est sur les principes, voilà.
Ouais, donc, sur les principes, voilà. Ouais.
Alors après, pour donner peut-être.
Parce que concrètement, ça se traduirait comment tout ça ? Alors peut-être que tu veux pas y arriver tout de suite, je sais pas.
Si, on peut en parler tout de suite parce que ça sera plus clair. Alors, du point de vue du programme, hein, s'il y a un côté un peu programmatique de son affaire là, bon, après, discuter, c'est toujours un peu chiant les programmes en général, enfin moi c'est mon point de vue, mais là en l'occurrence ça crée le débat. Comment ça se traduit par la suppression du ministère de la Justice et du Conseil d'État.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on sort la justice de l'exécutif, tout simplement. Parce qu'il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs, et que tant qu'il y a un ministère de la Justice, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La mesure forte également, c'est la création d'une assemblée sociale délibérative, c'est-à-dire en fait c'est la création d'une troisième chambre. Une troisième chambre ?
Bah
une troisième chambre en plus effectivement d'une représentation
avec un pouvoir législatif.
Avec un pouvoir législatif. Troisième chambre de la pouvoir législatif. Alors, elle dit qu'effectivement, historiquement, il y a des antécédents pas très encourageants, Pétain et Vichy notamment, mais qui voient effectivement une chambre des corps intermédiaires, donc des corporations. C'est un rétablissement du système corporatif. Alors, il dit qu'évidemment, faut essayer d'en sortir, mais il dit que lui, la généalogie historique qu'il revendique, c'est celle de 1848. Et c'est le Parlement du Luxembourg, qui est en fait une espèce de représentation du travail. Hein, c'est la République du travail. Et au fond, c'est ça, c'est cette idée-là qu'il a en tête, lui. Alors, avec l'idée, pas à partir d'une représentation en termes de classe, mais il pense qu'effectivement, ce qui n'est pas évident, hein, il reconnaît, il dit qu'effectivement, cette chambre, elle devrait être éligible sur la base, alors, à la fois des différentes catégories socio-professionnelles présentes à un moment donné, et sur la base de la manière dont elles sont organisées. C'est-à-dire que il faudrait trouver un système. Il dit que c'est pas simple, mais qu'il faut que rien n'empêche d'y réfléchir. Un système qui permette à la fois d'exprimer la diversité des catégories socio-professionnelles, des corps de métier, je dirais, et en même temps la diversité des organisations syndicales.
Ouais. Hein?
Mais effectivement, la logique, on la comprend. Hein, c'est-à-dire que c'est effectivement l'expression des forces vives de la nation, comme on dit. Les forces vives, c'est pas les entrepreneurs individuels.
Ouais, c'est ça que c'est la question que j'allais te poser.
Mais c'est ça le point, justement. C'est qu'il dit, tant qu'on reste dans un système représentatif fusionnel, effectivement, ça reste une idéologie pour petits patrons et, tu vois, avec une oligarchie à leur service, si tu veux. Donc si effectivement les forces vives, ça existe, d'après lui, voilà, c'est effectivement les entreprises, les salariés, les chercheurs, les cadres, les universités, les ouvriers. Hein. Donc effectivement, il faut réfléchir à une instance représentative de ça et de la manière dont effectivement ce monde du travail est structuré aujourd'hui. Ce qui est réellement pas simple, parce qu'effectivement derrière il y a le modèle du salariat effectivement qui peut l'aider, mais il n'y a pas que des salariés, loin de là. Voilà, qu'est-ce que tu fais pour représenter les précaires, les chômeurs, etc. Mais il y a des associations de chômeurs, il n'y a rien qui t'empêche de penser.
Si tu représentes que les travailleurs,
rien t'empêche non plus, tu vois, de penser une structuration aussi de syndicats de précaires, de chômeurs, si effectivement t'as un débouché législatif, pourquoi pas. Enfin, voilà. Donc voilà, on est sur cette mesure-là. Sur effectivement, alors, ce qu'il appelle la troisième mesure, donc suppression du ministère de la Justice du Conseil d'État d'abord, création d'une assemblée sociale délibérative. Troisième proposition, institutionnalisation des conventions délibératives citoyennes. Alors le modèle ici, c'est celui des jurys citoyens. Alors l'idée, c'est quoi? C'est en fait sur porté dans l'espace public par une pétition. Seuil de signature, 200 000, 300 000, 500 000 à débattre.
Truc à la Suisse, là.
Voilà, truc à la Suisse, effectivement. Tirage au sort d'un jury citoyen. Avec formation, information, délibération et décision à huis clos. Et statut, en fait, par des jurys citoyens, avec force d'exécution légale derrière. Quatrième proposition, un statut constitutionnel pour les lanceurs d'alerte.
D'accord.
Puisqu'effectivement le droit à l'information est effectivement aussi un droit qui doit être constitutionnel et donc qui doit protéger les lanceurs d'alerte. Désactivation de la fonction présidentielle.
Je me disais qu'est-ce que devient un type que le président dans un système comme ça.
Bah, il devient pas grand-chose, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, alors là, on est dans la cuisine institutionnelle, mais c'est pas des débats forcément inintéressants. Il maintient le principe d'une assemblée nationale. Hein, il y a une assemblée sociale délibérative, effectivement, une troisième chambre qui est créée, mais le principe de l'assemblée nationale ne disparaît pas. Simplement, elle est élue à la proportionnelle, bien évidemment. Et c'est elle qui investit le Premier ministre. Et en fait, voilà, le président n'a plus qu'une fonction symbolique. Premier ministre qui est représentant, qui est responsable devant la représentation nationale. Donc effectivement, devant la Chambre nationale.
Que devient le Sénat dans cette affaire?
Alors, le Sénat est pas, le Sénat meurt de sa belle mort, si je me souviens
bien. Donc il n'y a plus
que
deux chambres.
Non, il est maintenu, mais il n'est pas à supprimer en tant que tel. Alors j'ai peur de dire des conneries là, parce qu'on est dans le...
Parce que tu te rappelles, on avait vu avec Graeber. Que justement, le mode de république dans lequel on vit et se présente comme une espèce de synthèse entre la monarchie, l'aristocratie et la démocratie. La monarchie étant représentée par le président, l'aristocratie par le Sénat et la démocratie par l'Assemblée nationale, ça c'est dans l'idéal. Ouais. Et donc, c'est pour ça que souvent la chambre, ce qu'on a pu appeler aussi la chambre haute dans les systèmes bicaméraux comme le nôtre, sont élus au suffrage indirect et sont en général choisis plutôt par les maires, les ceci, les cela, et représentent dans la plupart des cas, comment dire, les forces dominantes et un peu réactionnaires de la société, dans une société donnée. Globalement, alors que l'Assemblée nationale, qui est élue directement par le peuple, est censée représenter justement des forces populaires plus vives, peut-être.
Alors je retrouvais la page là, sur le
Sénat,
sur l'Assemblée nationale.
Sur l'Assemblée nationale.
Donc voilà, à cette Assemblée, donc Assemblée nationale élue à la proportionnelle, reviendrait le pouvoir d'investir le Premier ministre, et cette investiture vaudrait contrat entre le gouvernement et la majorité de députés ayant approuvé le programme. Contrat, c'est-à-dire que le gouvernement et majorité parlementaire sont engagés l'un envers l'autre, que leur action politique est identique et que leur existence est liée. En d'autres termes, en cas de rupture du contrat, les deux partenaires sont touchés, le gouvernement démissionne et l'Assemblée est dissoute.
Ah, on retrouve un côté impératif là, d'une certaine manière, avec le côté contractuel de la nomination du Premier ministre. C'est-à-dire qu'une fois que le Premier ministre est nommé, il ne peut pas faire ce qu'il veut, puisqu'il est lié par contrat
à ceux
qui l'ont nommé.
Ça, c'est pas un problème. Je veux dire,
c'est un mandat impératif
à ce niveau-là.
Tu retrouves à ce niveau-là quelque chose d'impératif.
Ouais. Contrat de législature, inspiré des réflexions de Mendès France. Et le Sénat, le Sénat, je l'ai perdu, donc ça se trouve, il disparaît en fait. Mais le Sénat, d'une certaine manière, c'est la représentation des notables, quoi.
Enfin, c'est ça ce que je disais. Ouais.
Donc non, a priori, il n'a pas de place là-dedans.
Il n'a pas de place.
Le notable en tant que tel n'est pas encore.
Donc ça reste
à se vivre.
Donc ça reste un système bicaméral.
C'est la même chambre, effectivement, ouais, on est en bicaméral, effectivement. On est en bicaméral. Et pour terminer, du point de vue programmatique, donc désactivation de la fonction présidentielle comme ça, donc évidemment, la fonction disparaît d'elle-même hein, dans ce cas-là. Et donc, contrat de législature, oui, pour terminer sur cette affaire-là. Bon, alors, je ne sais pas quelle est la part qu'il a prise dans la 6e République. Hein, le bouquin est de 2015, donc c'était avant les présidentielles. Dans la campagne de Méluche, il y a eu une forte dimension institutionnelle, hein, qui était effectivement la 6e République. La dimension, cela dit, je trouve que l'approche qu'il a est réellement originale, parce que c'est pas si fréquent, je trouve, que dans le débat français, que tu es quelqu'un qui cherche à sortir effectivement de cette espèce de ping-pong entre jacobinisme, qui est quand même beaucoup mis en scène par Méluche, je trouve.
Oui. C'est ce qui la souveraineté nationale.
En tout cas, c'est très mis en avant par le traitement médiatique de Méluche, il faut dire. Après, le fonctionnement, il y a aussi des conventions, des débats, des assemblées citoyennes, des machins, etc. Il y a des gens qui discutent, il y a des gens qui délibèrent, il y a des gens qui proposent, il y a des plateformes, c'est très à la mode, ça. Bon, mais sortir de ce ping-pong, en tout cas, ce qui émerge, c'est quand même ça, c'est cette figure. Et puis lui-même, en tant que représentation fusion, il se pose là, l'incarnation de la nation, soumise, et puis le ping-pong avec les libéraux qui disaient, mais attendez, les individus c'est important, les droits individuels c'est important, et oui c'est important, oui c'est important, mais enfin après, quand ça fait crever le tiers de la population et que ça fout le reste dans la mouise, oui, il y a un problème, quoi, voilà. Donc sortir de ce ping-pong-là, et de fait je trouve que c'est assez convaincant, en tout cas la démarche est convaincante, le projet est convaincant. Bon, Sur le fond, les mesures institutionnelles, c'est assez difficile à évaluer, si tu veux. Voilà, moi, je te dis encore une fois, a priori, les programmes me font longtemps, ça me fait chier. Mais c'est des débats qu'on ne peut pas forcément
c'est-à-dire que si on cherche à sortir du système de merde dans lequel on vit, parce que je pense que c'est quand même un système de merde, ça va être difficile d'esquiver une réflexion institutionnelle. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on s'organise pour faire mieux? Et après, là-dessus, il est clair que les juristes, des gens comme ça, peuvent apporter des lumières que nous, on n'aurait pas nécessairement, parce que c'est quelque chose d'assez spécialisé au bout du compte. Après, la question. Parce qu'en fait, c'est assez concret, finalement. Le problème des institutions est très concret. Ouais. C'est-à-dire, si on veut un autre système, comment est-ce qu'on le met en œuvre? Donc après, on n'est pas nécessairement d'accord avec lui, mais en tout cas, il propose un truc qui peut être discuté.
Alors, je le dis quand même juste par forme de clin d'œil, un peu provoque, mais en fait, je dirais que c'est un courant intéressant, j'appellerais, celui de... un courant institutionnel, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je trouve que c'est un pôle qui est assez opposé dans la démarche, dans la forme, dans les ambitions et dans la rigueur, je dirais, aux appels à la destitution qu'on a dans le dernier livre de Tikkun.
Non, le comité invisible.
Voilà.
Précisons. Chez La Fabrique. Le comité invisible, c'est des anciens ticounes. Donc
oui. Bon, faut... Le comité invisible. Il y a des appels. Voilà, le fil rouge, effectivement, de ces derniers livres, qui n'est pas négligeable, mm-hmm. et par l'écho qu'il a, et par les conséquences, et puis par l'implication militante qu'il y a derrière, qui est respectable hein, en tant que tel. Mais effectivement, on a, alors là, pour le coup, une espèce de fil rouge qui est autour de ce motif de la destitution. Là. Il s'agit effectivement de destituer les pouvoirs, de destituer toute forme effectivement de programme. C'est bien, pour le coup, on a une espèce de démocratie. On n'est même pas une aspiration à la démocratie directe. Là. On est dans une espèce d'anarchisme nihiliste, je dirais, collectif. Et en fait, je suis moins convaincu, je dois le dire, par ce type d'approche-là. Alors là, je pense qu'effectivement, dans le cas du livre de Dominique Rousseau, là, dont je viens de parler, ça donnerait des boutons à tous nos camarades invisibles. Voilà. En fait, lui, il est dans un souci.
C'est pas grave, on les verrait pas.
Ouais, il est dans un souci de visibilité quand même. Son ambition, c'est de rendre la démocratie continue visible. C'est pour ça, effectivement, qu'il a ce souci de traduction institutionnelle. Après, il s'appuie effectivement sur toutes les expériences de type participatif, convention citoyenne. Il est très. Alors, sa marotte, c'est aussi, c'est le Conseil constitutionnel. Ça, c'est vraiment il est constitutionnaliste, donc il y a une petite déviation un peu corporatiste derrière. Mais en fait, c'est quelque chose avec la Constitution est ce qui permet, d'après lui, l'évolution du droit et la créativité du droit, y compris la créativité politique du droit, conformément effectivement aux droits fondamentaux des individus et à l'expression de la société en tant que telle. Je pense qu'il est... Pour le coup, il a tendance à idéaliser un petit peu la fonction institutionnelle du Conseil constitutionnel. Il passe très très vite sur les enjeux qui sont des rapports de mobilisation, des rapports stratégiques, de rapports de force, qui permettent évidemment une stratégie juridique derrière. Donc il est très sur ce pôle-là, effectivement. C'est le pôle juridique dégagé des rapports de force. Donc là-dessus, on pourrait lui reprocher, bien évidemment.
Ça, c'est un travers assez fréquent des juristes.
C'est fréquent, mais cela dit, c'est pas leur sujet.
Mais c'est pas leur sujet. Voilà. Et puis, ce qu'ils cherchent à faire, c'est sortir des rapports de force. Donc ils sont quasiment conduit par une nécessité professionnelle à ignorer ce qui va nier leur activité. Voilà. Et en même temps, à titre personnel, je préfère largement le droit au rapport de force, donc j'ai du mal à leur reprocher.
Et puis, au-delà de la préférence, la question c'est de savoir qu'est-ce que tu construis sur le rapport de force. Enfin, qu'est-ce que tu construis?
C'est bien pour ça que je parle de préférence. Parce que tu construis rien sur un rapport. Enfin, tu construis
Tu construis tout.
Oui, tu construis tout, oui.
Tu construis beaucoup de choses, mais pas sur le rapport de force en tant que tel.
C'est ça.
C'est ça le point. Donc, ou sur la destitution en tant que telle. Alors, c'est pareil, je vais dire, destituer les oligarchies, destituer la finance, destituer le capital, la marchandisation de la vie, la fétichisation des relations et la déréalisation, la spectacularisation. Je m'arrête.
Oui, voilà. Ils peuvent tout destituer s'ils veulent. Hein. Ouais. Mais...
Et tout, comme ça change rien.
C'est ça, ils peuvent aussi décréter que la fête nationale c'est le 22 décembre.
Bon, mais ça méritait qu'on en discute plus. Hein, on aura l'occasion de revenir là-dessus. D'autant que là, il y a l'édition aussi récente là de lundi matin, là, de la version papier de lundi matin, qui est intéressante et puis qui s'inscrit un peu dans cette voie-là. Et donc je pense qu'effectivement il y a un certain nombre d'auditeurs qui sont intéressés aussi par ce type d'approche-là. Là, en l'occurrence, on est sur autre chose. Quoi. Voilà. Alors, on pourrait lui reprocher d'être trop réformiste, d'être trop socialisant, d'être trop républicain, d'être trop mou, d'être trop juriste, etc. Bon, il n'empêche que c'est un texte qui, moi, m'a semblé intéressant, riche, sur le plan historique, intellectuel, politique également. Donc je le conseille, Radicaliser la démocratie, proposition pour une refondation de Dominique Rousseau, c'était édition du Seuil, et ça date de 2015, donc c'est relativement récent. Et c'est ma proposition de cette semaine, voilà, en espérant avoir été pas trop confus ou pas trop général, parce que le livre ne l'est pas. Hein. C'est un livre qui fait de 130 pages, mais bon, qui est tout à fait abordable, y compris pour des non-spécialistes dont je fais partie, hein, puisque il y a des réflexions sur l'histoire du droit français qui me sont assez étrangères au départ. Voilà.
Donc c'était Jeudi Noir, vous pouvez retrouver l'émission sur le site de José, donc Gurdulu. Vous tapez Jeudi Noir, Gurdulu, Archive, ou des trucs comme ça, vous trouverez toutes nos émissions, on est à 105 ou 106, je ne sais plus trop, dans ces eaux. Et puis là, je pense que vous allez encore écouter un morceau de Nomizno, le meilleur groupe du monde, le meilleur groupe de tous les temps, voilà. Voilà.
The chill of the winter is bitter and bleak. The snow on the pathway is heavy and deep. So I dig in my shovel and lift it on high. I'm going to shovel this snow till I die. The end of the road looks like freedom to me. I walk past the hours, I walk past the weeks, and the months fall behind as I pass the years by. I'm going to walk down this road till I die, till I die. I sit on my own and no words do I speak. The sky's in my head and the ground's on my feet. But no pleasures delight me, no tears do I cry. I'm going to sit on my own till I die, till I die. I'm going to sit on my own till I die, till I die. I'm going to sit on my own till I die. The sound of the ocean, my feet in the sand, the chill of the wind, the lie of the land, the drops on my skull, the gull's lonely sound, the thunder, the lightning, the rain pouring down, till I die. The centuries pass, I walk from the first and I crawl to the last. But the silence surrounds me, in stillness I lie. I'm going to pass through these days till I die, till I die. I'm going to pass through these days till I die.